France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, la candidature d'Éric Zemmour à la présidentielle 2022. Ce journaliste, proche de l'extrême droite, coutumier des scandales et des polémiques, déboule dans le scrutin majeur de la vie politique française comme par effraction. Lui qui a passé sa vie à la commenter cette vie politique dans Le Figaro et sur ITL Futur CNews. Polémiste par nature controversé, plusieurs fois condamné par la justice pour ses propos discriminatoires, plus habitué au plateau de télé-comitings électoraux, il va pourtant être le phénomène médiatique de cette élection. Dans une campagne électorale qui vire à droite, Zemmour parvient un temps à monopoliser l'attention, à imposer ses thématiques réactionnaires aux médias et aux autres candidats. C'est lui qui, pendant 3 mois, imprime le tempo de cette campagne. Un temps seulement. Car comme beaucoup d'autres avant lui, cette candidature championne d'automne arrive rincée au printemps. Pour l'échéance, la vraie, le premier tour de la présidentielle, où il réalise un score, un chiffre, 7%, très loin derrière les deux candidats qualifiés pour le second tour. Notre invité aujourd'hui, Étienne Girard, journaliste et rédacteur en chef à L'Express. Il est l'auteur du livre « Le radicalisé », une enquête sur le parcours d'Éric Zemmour. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusion directe, récit documentaire Gaspard Valu, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Denante, réalisation Hélène Bizio.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Dimanche 10 avril 2022, Vincennes. En cette fin d'après-midi, voitures et taxis défilent devant l'entrée du pavillon Chenet du Roi, situé en bordure du bois de Vincennes, à l'est de Paris. Les invités traversent la cour, puis pénètrent dans l'imposante salle de réception. À l'intérieur, l'ambiance est à la bonne humeur. La centaine de militants du tout nouveau parti Reconquête, créé quelques mois plus tôt par Éric Zemmour, discute autour de coupes de champagne, de petits fours, soirée électorale quoi. On partage des rêves de second tour. Ainsi, les principales figures du nouveau mouvement d'extrême droite échangent-elles le plus courtoisement du monde avec les journalistes aux aguets, sur place, et un œil sur la télé où s'expriment doctement sondeurs et politologues qui ont leur ronde serviette sur les grandes chaînes de télé. Pourtant ici, dans ce parti, les chances d'accession au second tour sont minces. Mais tous espèrent sincèrement que l'intense bataille médiatique livrée depuis plusieurs mois portera ses fruits. C'est la poésie du militantisme, la capacité de croire en ses rêves. Alors, peu importe les nombreuses polémiques, les dérapages ou les maladresses de l'ancien chroniqueur, il sait parler à ses sympathisants. Il peut se permettre des écarts que les mêmes sympathisants apprécient. Les minutes passent, la tension monte d'un cran. Quelques secondes avant 20h, le compte à rebours est lancé, la salle retient son souffle.
C'est l'heure du dénouement de ce premier acte de l'élection présidentielle. Qui arrivera en tête du scrutin? Vous allez voir apparaître votre choix dans ce hall, ici. C'est l'épilogue de cette campagne. Il est 20h, voici le résultat de ce premier tour. En tête ce soir, Emmanuel Macron avec 28,1%, devant Marine Le Pen avec 23,3%. La même affiche qu'en 2007 apparaît au terme de ce premier tour. Vous voyez les deux QG avec l'explosion de joie dans les deux QG. Voici la suite des résultats avec Anne-Sophie.
Oui, à la troisième place, Jean-Luc Mélenchon avec un gros score, 20,1%, plus important encore qu'en 2017. Derrière Éric Zemmour, mais loin derrière, à 7,2%. Suit Valérie Pécresse, 5%.
Si la déception se lit sur les visages des militants pré-Zemmour et bénévoles de la campagne, le score et la quatrième place de leur candidat, novice en politique, est ressenti comme une vraie performance. Oui, dans le camp Zemmour, on se réjouit d'arriver devant les forces politiques historiques comme les Républicains, relégués 3 points derrière et un parti socialiste perdu en bas de classement. On avance sur les ruines, mais on est content. Reste que le polémiste aura marqué la campagne électorale de son empreinte en tant que champion d'automne, comme on dit en football. Or, cela finissera rarement premier au printemps qui suit. Mais n'allons pas trop vite. La présence de Zemmour dans cette campagne 2022, c'est d'abord le fruit d'une longue carrière médiatique.
Je sais que ça va faire hurler tout ça. Je pense que ce qui vous arrive, c'est justement parce que vous êtes une femme. Enfin, on a tous des cerveaux archaïques. C'est là où sont nichées les pulsions sexuelles, etc. Et je crois qu'il y a dans le cerveau archaïque de la femme la fascination du pouvoir. On va attaquer tout de suite là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'une femme doit, elle peut mettre le foulard et qu'il n'est pas normal que la France le lui interdise. C'est ça ma question, elle est simple, oui ou non?
Bien sûr, il n'est pas normal que la France interdise à n'importe quel être humain une façon de se vêtir.
Même dans le cadre scolaire, donc on est d'accord.
Exactement.
Bon, alors moi je vais vous dire, la tradition française, c'est tout le contraire.
Je ne sais pas ce que vous faites.
Moi, je suis journaliste. Je suis journaliste.
Alors, vous bossez où?
Je suis journaliste au Figaro. Je suis journaliste politique depuis 20 ans. D'accord. Et j'écris des livres.
Il y a un peu d'esprit là-dedans.
C'est vrai que nous, on n'est pas comme lui. On n'est pas des professionnels de la bonne humeur pour enfants de 4 ans. Alors, évidemment, c'est difficile.
Découvert par le grand public en 2006 dans l'émission On n'est pas couché sur France 2, Éric Zemmour devient rapidement une figure de ce rendez-vous du samedi soir. Recruté pour former un duo avec un autre chroniqueur, il doit incarner la parole d'une droite décomplexée. Un concept qui a le vent en poupe, d'où l'élection de Nicolas Sarkozy quelques mois plus tard. Dès sa première saison chez Ruquier, le journaliste du Figaro se révèle particulièrement à l'aise dans l'exercice. À la manière d'un sniper dont la télé des années 2000 raffole, il multiplie les critiques et les attaques sans concession, ainsi que les déformations historiques assénées sur un ton professoral. Ces saillies réactionnaires hebdomadaires, adressées aux artistes, auteurs et politiques qui défilent sur le plateau, énervent autant qu'elles amusent un public toujours au rendez-vous de ces soirées où l'on prend l'info comme terrain de jeu, quitte à brouiller les repères et nourrir les populismes, mais tant qu'il y a du spectacle. Ainsi, grâce à cette émission qui réunit plus d'un million de téléspectateurs chaque semaine, Éric Zemmour devient un personnage médiatique de premier plan.
Éric Zemmour verra peut-être dans cette sanction une nouvelle expression.
Mais les polémiques régulières sur France 2, comme sur RTL, où il assure également une chronique quotidienne dans la matinale, ne restent pas sans conséquences. Déjà écarté du Figaro un an plus tôt, France 2 se sépare de lui à la fin de l'année 2011, après 5 ans de collaboration. Officiellement pour renouveler l'émission. Mais en interne, on est soulagé du départ de celui qui, quelques mois plus tôt, affirmait sans sourcil que la plupart des trafiquants étaient noirs ou arabes ou soutenaient le droit des employeurs de refuser des candidats issus de l'immigration africaine et maghrébine. Des déclarations qui lui vaudront une condamnation pour provocation à la discrimination raciale quelques années plus tard. S'il conserve sa chronique sur RTL, il est surveillé de près par sa direction. Avec une exposition médiatique en baisse, il a maintenant du temps pour se consacrer à une autre activité, l'écriture. En 2014, il publie son nouveau livre, Le Suicide français. Plus de 500 pages pour délivrer sa vision décliniste et réactionnaire d'une France qui, selon lui, se perd. Mai 68, droit de l'hommisme, général de Gaulle, Vichy et surtout la théorie du grand remplacement, fantasme qui, à force d'infuser dans la société, devient idée politique et Zemmour le promoteur. Ce livre, en tout cas, et c'était son but, suscite de vives polémiques que l'auteur alimente lui-même. En octobre, à l'occasion d'une interview accordée au quotidien italien Corriere della Sera, il formule de violentes attaques contre les musulmans. Un entretien qui ne passe pas inaperçu en France, comme le raconte le magazine Complément d'enquête, quelques mois plus tard, dans un numéro consacré aux polémistes.
Jean-Luc Mélenchon lâche sa bombe. Sur son blog, il exhume un entretien donné par Éric Zemmour en octobre dernier au Corriere della Sera, un journal italien, dans lequel il soutiendrait l'idée de déporter 5 millions de musulmans. Peut-être la provocation de trop.
On n'est pas forcément d'accord.
Éric Zemmour se défend.
Non seulement le mot déportation n'a pas été prononcé par moi, mais ça c'était dans le texte, mais il n'a même pas été prononcé par le journaliste italien qui l'a reconnu dans le Figaro Vox, et qui a dit « Non, j'avais une question un peu longue et j'ai résumé ma question par un mot, déportation. »
Le mot « déportation » n'aurait été employé qu'au moment de la retranscription de l'interview.
De ne pas avoir contredit.
Mais sur le fond, Zemmour n'a-t-il pas cautionné l'idée d'expulser des millions de musulmans?
Là, une manipulation fantastique.
Peu importe les polémiques ou bien son licenciement d'Italie où il officie encore comme débatteur. Éric Zemmour retient avant tout ses 400 000 ventes de livres et l'immense succès populaire de son brûlot décliniste. Grâce au suicide français, il se hisse au rang d'intellectuel populaire de la droite française. Il séduit aussi bien l'électorat républicain que la base du Front National ou les déçus des deux partis. Les responsables politiques qu'il côtoie depuis le début de sa carrière le consultent et beaucoup aiment s'afficher à ses côtés. Il cultive aussi de vraies amitiés. Lors de déjeuners réguliers dans les restaurants parisiens, il discute avec Philippe de Villiers, chantre de la droite souverainiste des années 2000, Patrick Buisson, ancien conseiller de l'ombre de Nicolas Sarkozy, ou Paul-Marie Couteau, figure naviguant entre les différents courants de la droite. Tous débattent, partagent leurs idées, leurs rêves d'une droite française unifiée. Jusqu'au moment où les amis Zemmour plaident pour qu'il se lance lui-même dans l'arène. En 2017, ils veulent le convaincre, il a une carte à jouer à la présidentielle. Même s'il partage le sentiment que Marine Le Pen ne gagnera jamais, Zemmour refuse. En 2018, il est courtisé par le Rassemblement National et le parti de Nicolas Dupont-Aignan, qui lui offrent chacun une troisième place sur leur liste pour les européennes de 2019. Et encore une fois, il décline. Pour lui, c'est tête de liste ou rien. Pas très intéressé non plus par les enjeux de l'Union européenne qu'il critique avec virulence. Mais son aura politique continue de grandir. En février 2019, il est acclamé par les militants républicains, ravi de le voir sur scène aux côtés d'un Laurent Wauquiez qui déclare qu'il est chez lui ici. En septembre, il devient l'un des intervenants phares de la convention de la droite organisée par Marion Maréchal. Un rassemblement de la droite hors les murs et réactionnaire, retransmis en direct sur LCI. Pour ce premier discours aux accents politiques, Éric Zemmour multiplie les outrances et les dérapages.
Dans les années 30, les auteurs les plus lucides qui dénonçaient le danger allemand comparaient le nazisme à l'islam. Personne ne leur reprochait de stigmatiser l'islam. À la limite, beaucoup trouvaient qu'ils exagéraient un petit peu. Bien sûr, disaient-ils, le nazisme est parfois un peu raide et intolérant, mais de là, le comparer à l'islam. Aujourd'hui, les immigrés viennent en France pour continuer à vivre comme au pays. Ils gardent leur histoire, leurs mœurs, leurs prénoms, leurs lois qu'ils imposent de gré ou de force aux Français de souche qui doivent se soumettre ou se démettre, c'est-à-dire vivre sous la domination des mœurs islamiques et du halal, ou fuir. Les caïds et leurs bandes s'allient à l'imam pour faire régner l'ordre dans la rue et dans les consciences, selon la vieille alliance du sabre et du goupillon, la kalache et la djellaba.
Les vives critiques, suite à la violence des propos tenus par l'ancien chroniqueur de France 2, ne l'affectent pas le moindre du monde. Au contraire, Éric Zemmour sent que le vent est porteur. Et il prépare son retour sur le devant de la scène médiatique.
Face à l'info, bonsoir à tous. Nous sommes ensemble de 19h à 20h et au sommaire ce soir. Peut-on parler d'une droitisation de la politique française ? L'édito d'Éric Zemmour.
Retour sur CNews. En octobre 2019, quelques jours seulement après la polémique suscitée par son discours lors de la convention de la droite, Zemmour retrouve une chaîne qu'il a quittée avec fracas quelques années plus tôt. Mais cette fois, la donne a changé. Désormais aux mains du milliardaire Vincent Bolloré, il est choisi pour incarner cette Fox News à la française et porter le projet droitier de son patron. Chroniqueur star de l'émission Face à l'info animée par Christine Kelly. Il dispose d'une heure de quasi-libre antenne quotidienne pour délivrer ses analyses et dérouler ses thématiques favorites. La recette est un succès, les audiences progressent. La chaîne parvient même à dépasser régulièrement sa rivale BFM TV. Islam et République, prénom français, accusations à l'encontre des mouvements féministes. Malgré les polémiques et les protestations politiques, Éric Zemmour est sans cesse conforté par sa direction. De retour au Figaro, et de plus en plus populaire au sein de l'électorat de la droite souverainiste et réactionnaire, il commence à se rêver un destin présidentiel.
La nostalgie leur fait miroiter la grandeur d'une France passée qu'ils ont fantasmée. L'incompréhension saisir ceux qui voient leur foi dénigrée sans qu'ils aient rien demandé. La peur les persuade que des étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer. Le désespoir leur faire prendre des risques pour survivre là où on les a tous entassés. La paranoïa leur faire croire qu'on peut plus sortir dans la rue sans être en danger. La panique les poussait à crier que la terre meurt et personne en a rien à branler. La méfiance les excitait, dire qu'on peut plus rien manger, qu'on a même plus le droit de penser. La haine les faire basculer dans les extrêmes. M'allumer l'incendie tout enflammé. L'odeur de l'essence. L'odeur de l'essence. L'odeur de l'essence. Les jeux sont faits, tous nos leaders ont échoué. Ils seront détruits par la bête qu'ils ont créée. La confiance est morte en même temps que le respect. Qu'est-ce qui nous gouverne, la peur et l'anxiété? On s'auto-détruit, on cherche un ennemi. Certains disent c'est foutu, d'autres sont dans le déni. Les milliardaires lèguent à leurs enfants débiles. L'histoire appartient à ceux qui l'ont écrite. Plus personne écoute, tout le monde s'exprime. Personne change d'avis que des débats stériles. Tout le monde s'excite parce que tout le monde s'excite. Que des opinions tranchées, rien n'est jamais précis. Plus le temps de réfléchir, tyrannie des chiffres. Gamin de 12 ans dont les médias citent les tweets. L'intelligence fait moins vendre que la polémique. Battle Royale, c'est chacun pour sa petite équipe. Connard facho, connard hystérique. Tout est réel, tout est systémique. Dès qu'un connard fait quelque chose de mal quelque part, le monde entier devient susceptible. Les coupables sont d'anciennes victimes. Le cercle du mal jamais fini. Tout dégénère, tout est cyclique. Pas de solution, que des critiques. Tout le monde est sensible, tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Sensible, sensible, sensible. Tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Tout le monde baisse, tout le monde peut faire le petit train. Une discussion sur deux, c'est quelqu'un qui se plaint. Pendant que le reste du monde souffre pour qu'on vive bien. Les parents picolent, c'est les enfants qui trinquent. Accident de bagnole, violence conjugale. L'alcool est toujours à la racine du mal. Rien rempli plus chic, aucune empathie. Tout est hiérarchique, l'école t'apprend seulement l'individualisme. On t'apprend comment faire de l'argent, pas des amis. Si le président remporte la moitié des voix, c'est que les deux tiers de la France en voulaient pas. Pas besoin de savoir c'est quoi le Sénat pour voir que les vieux riches font les lois. Personne aime les riches jusqu'à ce qu'ils deviennent. Ensuite ils planquent leur argent au flip de le perdre. Tellement taf de merde, fais semblant de le faire. Combien de jobs servent juste à satisfaire nos chefs? Nourris au jugement, nourris au cliché. Alors qu'on sait même pas se nourrir, on se bousille. On sait pas gérer nos émotions, donc on les cache. Sait pas gérer nos relations, donc on les gâche. S'assume pas ce qu'on est, donc on est lâche. On se pardonne jamais dans un monde où rien s'efface. On se crache les uns sur les autres, on sait pas vivre ensemble. On se bat pour être à l'avant dans un avion qui va droit vers le crash.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Éric Zemmour et la campagne présidentielle de 2022.
Affaires Sensibles.
Les femmes jouent au football,
non,
ça vous déplaît, mais
football.
C'est comme ça.
Elles jouent pas au football, c'est pas du football. Mais c'est pas grave, ma fille joue au football quand elle avait 10 ans, je trouvais ça très mignon. Vous voyez, maintenant elle fait de la danse, c'est quand même un peu plus conforme à ce qu'elle est. Bah oui, je suis désolé.
Vous êtes comme Tapie, vous êtes un ringard du Pont-Moretti. On se croirait dans les années 80 du Pont-Moretti.
Moi, je vais pas vous
c'est des arguments bidons des années 80. Mais arrêtez avec vos arguments des années 80, c'est terminé.
Fabrice Drouet.
J'ai vu Madame Obono dire tout son amour pour Mohamed Merah, qui tue des enfants juifs comme ça avec un pistolet sur la tête. Ça, c'est Madame Obono. Et Madame Obono vient pleurer parce qu'on se moque d'elle dans un journal, dans une fiction. Mais on rêve.
Les mois passent et le succès de l'émission Face à l'info ne se dément pas. Star de la chaîne CNews, Éric Zemmour devient l'icône de toute une frange de l'électorat de cette droite qui ne se reconnaît plus dans les Républicains ou qui exècre Marine Le Pen et sa stratégie de dédiabolisation. Sur les réseaux sociaux, le mot-clé hashtag Zemmour se place régulièrement en tête des tendances. Les appels populaires à sa candidature en vue de la présidentielle de 2022 se multiplient. Alors à force, il commence à y croire. Dès 2019, il affirme avoir plus de chances de gagner que l'autre icône de cette droite qu'il incarne, Marion Maréchal. Et ses proches notent un changement de ton qui traduit certainement une envie d'en découdre. Un virage peut-être pas tout à fait étranger à l'émergence d'une figure de l'ombre dans l'entourage du polémiste Sarah Knafo. Dans son livre « Le radicalisé », le journaliste de l'Express Étienne Girard évoque la relation qui lie Zemmour à cette jeune énarque que tout le monde qualifie de « brillante ».
Ils se connaissaient depuis 2007. Sarah Knafo a 13 ans, son père est un ami d'Éric, qu'elle surnomme parfois Z. 35 ans les séparent. Mêmes origines juives séfarades, même jeunesse en Seine-Saint-Denis. L'essayiste lui inculque ses idées, lui fait réviser Sciences Po avec succès et la pousse à présenter les concours administratifs. Il est le mentor et elle, l'apprenti. Éric, c'est un monstre, juge Sarah, admiratif des aptitudes intellectuelles de son Pygmalion.
Désormais, la jeune femme le conseille, lui fournit des notes et des chiffres en amont de ses émissions. Elle lui donne son avis sur les thématiques à aborder. Elle est aussi de tous les rendez-vous de son mentor qui la présente à ses relations avec un enthousiasme non dissimulé. Après avoir soutenu Henri Guénaud quelques années plus tôt, Sarah Knafo rêve aujourd'hui de voir émerger une candidature souverainiste à la prochaine présidentielle. Elle est convaincue des capacités d'Éric Zemmour. Là où d'autres ont échoué à donner envie à l'ancien journaliste de se lancer, elle semble y parvenir, elle. Et elle se met à son service. Dès 2020, et en parallèle de son travail à la Cour des comptes, elle organise des rencontres et des dîners dans son appartement du 16e arrondissement de Paris. Elle présente les polémistes à des figures de la haute administration ou à des personnalités du monde des affaires comme Loïc Le Floch-Prigent ou Henri de Castries, ancien PDG d'AXA. Des échanges informels durant lesquels Zemmour expose ses idées et sont des avis de ses convives.
D'abord, il faut voir qu'il y a beaucoup de tactiques, beaucoup de...
C'est au printemps 2021, un an avant le premier tour de la présidentielle, que tout s'accélère. Sarah Knafou a déjà commencé à mobiliser un réseau de jeunes militants rencontrés durant ses années étudiantes. Samuel Lafont, spécialiste des réseaux sociaux et ancien communicant de Valérie Pécresse, par exemple, est déjà sur le front. Cela fait plusieurs semaines que le jeune homme, à la tête de plusieurs sites d'extrême droite, développe une stratégie ambitieuse pour mobiliser la base de sympathisants et renforcer la présence du polémiste sur les réseaux. Stanislas Rigaud, un jeune étudiant en droit et fervent supporter d'Éric Zemmour, lui est sollicité pour mettre en place et coordonner Génération Z, une structure de jeunes bénévoles à travers tout le pays. Il y a aussi Antoine Dirs. À 34 ans, c'est directeur de cabinet du maire du Plessis Robinson en région parisienne et le seul politique de métier. Il prend la tête de la toute nouvelle association Les Amis d'Éric Zemmour. Cet outil stratégique doit permettre de lever des fonds, récolter des parrainages et structurer l'effort engagé en vue d'une candidature du chroniqueur. Bien, si dans l'ombre tout semble se mettre en place, les proches d'Éric Zemmour continuent pourtant d'entretenir le flou. Officiellement, ces nouveaux réseaux n'ont aucun lien avec sa candidature réelle ou supposée. Interrogé par BFM TV, Antoine Dirs affirme ainsi agir en toute indépendance.
Antoine Dirs a formé une première équipe pour récolter les 500 parrainages des maires. C'est lui aussi qui a rédigé cette brochure de promotion d'Éric Zemmour, envoyée dans les mairies. Mais promis, juré, tout cela s'est fait sans intervention du polémiste.
Qu'est-ce qu'il y a écrit ce petit texte ?
Moi.
Et vous l'avez fait valider par l'intéressé ?
Ah bah non. Non, Éric Zemmour, vraiment, il est dans son couloir, on est dans le nôtre, il vit sa vie.
Et enfin, vous avez quand même des contacts.
On prépare sa future vie. Ah non, moi, j'ai pas de contact avec Éric Zemmour. Je l'ai vu quelques fois, mais...
Il vous a pas félicité, il vous a pas remercié ?
Je trouve qu'il aurait pu, parce que je me trouve très bon.
En parallèle de cette stratégie coordonnée par Sarah Knafou, Éric Zemmour planche sur les dernières lignes de son nouveau livre « La France n'a pas dit son dernier mot ». En juin, il rencontre son éditeur chez Albin Michel. Face à cet ouvrage qui a tout de celui d'un candidat en campagne, son interlocuteur se montre prudent. D'ailleurs, plus que ça, impossible de le publier s'il décide de se présenter. Zemmour enrage. Eh bien, tant pis pour la maison avec laquelle il travaille depuis des années, il s'auto-publiera. Au même moment, son ami et spécialiste des études d'opinion Patrick Buisson commande un premier sondage pour tester la popularité d'Éric Zemmour. Le polémiste est à 5% d'intention de vote. C'est peu, mais pour quelqu'un qui est novice en politique et qui n'est pas encore candidat, c'est bien. Et puis, la contre-performance du Rassemblement national aux élections régionales du 28 juin 2021 confirme l'intuition du journaliste. Marine Le Pen ne pourra pas gagner en 2022. Au lendemain des résultats, des affiches portant le visage d'Éric Zemmour sont collées par les jeunes de Génération Z un peu partout en France. Une campagne qui ne passe pas inaperçue auprès des médias.
Affichage sauvage dans les rues de Paris et d'un millier de communes en France. Opération Zemmour président.
Là, il y a l'opération tractage qui va être mise en place. Les nouvelles affiches qui vont arriver. Donc on procède comme on a fait depuis le début, c'est-à-dire en gros on reste sur une distribution massive et en gros on essaie d'inonder.
Inonder le pays d'affiches. Voilà la stratégie pour préparer les esprits à une candidature Zemmour.
Durant l'été, Éric Zemmour continue d'occuper l'espace. La sortie annoncée de son livre, ses outrances à répétition et les rumeurs grandissantes sur son éventuelle candidature le place au centre du jeu médiatico-politique. À la fin du mois d'août, Paris Match publie à la une le cliché volé du polémiste en vacances avec sa jeune conseillère Sarah Knafou. Le couple qui gardait jusque-là cette relation secrète dénonce une atteinte à sa vie privée. Mais en vérité, le bruit créé contribue à entretenir la popularité d'Éric Zemmour. À la fin de l'été, Laurent Wauquiez, le seul homme politique qui trouve grâce à ses yeux, annonce qu'il ne se présentera pas aux primaires de la droite. Pour Éric Zemmour, c'est le dernier signe qu'il attendait. Et cette fois, c'est décidé, il y va. C'est en septembre que tout s'accélère. Le 8, le CSA annonce que le temps de parole d'Éric Zemmour sera désormais décompté comme celui d'un candidat. Une décision justifiée en raison du flou entretenu par les prises de position de plus en plus polémiques du polémiste. Le 13 septembre, CNews annonce que son chroniqueur star se met en retrait de l'antenne. Quelques jours plus tard, les responsables du Figaro déclarent qu'Éric Zemmour prend congé du journal. Désormais accompagné par Olivier Hubeda, un spécialiste de la communication politique et des campagnes présidentielles, il annonce une grande tournée promotionnelle à l'occasion de la sortie de son nouveau livre. Une tournée qui débute le 17 septembre à Toulon.
Le polémiste arrive dans la salle en terrain conquis. Il salue la foule comme un candidat et distille son message centré sur l'immigration.
Nous avons des enclaves étrangères qui ne respectent plus la loi française, le droit français.
Un candidat pas encore déclaré pour l'heure. Ce serait donc surtout une aventure littéraire, dit ses proches.
Bonjour madame.
Pas de proposition concrète dans son livre, mais les lecteurs, de possibles électeurs, y voient une aventure politique, parmi eux, des abstentionnistes.
Moi j'espère ça, qu'il peut bulletin marqué Éric Zemmour.
Vous aviez voté pour qui en 2017?
J'ai jamais voté de ma vie.
Ce tour de France des dédicaces ou cette pré-campagne doit se poursuivre dans les semaines à venir.
Cette première allure de meeting politique est un succès. Quelques jours plus tard, son débat avec Jean-Luc Mélenchon, diffusé en direct sur BFM TV, réunit plus de 3 millions de téléspectateurs.
D'être criminogène, d'être agressif,
non,
et d'être raciste.
En tout cas, l'accélération de cette campagne, qui ne dit pas son nom, se fait ressentir dans les sondages. À la fin du mois de septembre, une première étude le place à 13% d'intention de vote, 3 points seulement derrière Marine Le Pen. Puis en octobre, il passe la barre des 17%, dépassant pour la première fois la candidate du Rassemblement National. Si officiellement, les responsables du parti historique d'extrême droite relativisent cette soudaine percée d'un concurrent inattendu, en interne, c'est la panique. Éric Zemmour a fait de Marine Le Pen sa cible prioritaire, et on craint de voir fuir les électeurs et les cadres du RN. À l'image d'une classe politique qui ne sait pas comment gérer le phénomène Zemmour, les grandes rédactions françaises s'interrogent également sur la bonne manière de traiter l'actualité autour de celui qui n'est pour l'heure qu'un auteur en tournée promotionnelle. Alors, doit-on faire réagir les invités ou commentateurs à chacune des sorties du polémiste? Que faire lorsque le non-candidat pointe le canon d'un fusil d'assaut sur des journalistes venus le suivre lors d'un déplacement dans un salon de l'armement? Dans le documentaire de Celia Braccia, Service public, la journaliste et ses collègues de France Info semblent s'interroger sur la place à laisser à celui qui ne cesse de les critiquer. Alors écoutons cette discussion entre le rédacteur en chef et les journalistes de la matinale de France Info.
Je me disais ce matin que j'ai envie d'inviter Zemmour. Je reviens en arrière, mais je vous explique pourquoi. Je suis d'accord sur le thème « Il n'est pas candidat, donc on ne l'invite pas ». Deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il est en train de dire le service public, je pense que politiquement, y compris pour nous, de dire le service public ne le boycotte pas et l'invite.
Mais il peut boycotter, il a fait sa première télé sur le service public.
C'est quelque chose d'important. Voilà.
Je suis pas d'accord.
Je suis pas d'accord non plus.
Je suis pour qu'on l'invite après quand il sera candidat, mais je trouve que là, c'est exactement pas la bonne fenêtre de tir.
La dynamique de cette rentrée politique laisse vite la place au doute. Tel un Donald Trump qui a fait de l'outrance une stratégie politique, Éric Zemmour multiplie les dérapages et les polémiques. Mais la France n'est pas encore l'Amérique, et alors que l'hiver approche, les ratés se multiplient. Son hommage douteux aux victimes des attentats du 13 novembre devant le Bataclan tourne au fiasco, quand il s'en prend de façon peu habile aux journalistes conviés sur place et à l'ancien président François Hollande. Une sortie vivement critiquée, même en interne. Quelques jours plus tard, c'est l'ouverture de son procès pour ses propos tenus sur le plateau de CNews en 2020 sur les mineurs isolés, qu'il avait alors qualifié de voleur et de violeur. Enfin, la visite chaotique du quartier du Panier à Marseille, dont on ne retient qu'un doigt d'honneur adressé à une passante hostile, conclut un mois de novembre catastrophique. La campagne prend l'eau, il faut réagir.
Il aurait joué le suspense jusqu'au bout. À 12h03, Éric Zemmour franchit le pas.
Mes chers compatriotes,
sur les réseaux sociaux, il publie une vidéo dans laquelle il déclare sa candidature.
Il n'est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. C'est pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle.
Une vidéo de 9 minutes qui montre une France qu'il décrit une fois de plus fragilisée par l'immigration. Il appelle à retrouver un pays fier de son identité.
Rejoignez-moi, dressez-vous. Nous, les Français, nous avons toujours triomphé de tout.
Le candidat Éric Zemmour est au pied de la montagne.
J'ai dit, ne me coupez pas.
L'annonce officielle de la candidature d'Éric Zemmour par une vidéo diffusée sur YouTube devrait permettre de relancer la campagne. Raté. Sur le fond, comme sur la forme, la vidéo ne convainc pas. Même en interne, des voix se font entendre et critiquent la noirceur du ton et le discours défaitiste du désormais candidat. Et puis il y a l'amateurisme de l'équipe qui a eu recours à de nombreuses images et musiques dont il n'avait pas les droits. Une maladresse qui crée malaise. Le 5 décembre, le candidat Zemmour organise son premier meeting officiel. L'occasion de présenter son nouveau parti, baptisé Reconquête. Pour ce premier rassemblement, Sarah Knafo et l'équipe de campagne ont vu les choses en grand. Ils réservent le parc des expos de Villepinte en banlieue parisienne. 13 000 personnes répondent à l'appel. Mais encore une fois, l'événement est marqué par des incidents. Si le discours d'une heure et demie aux accents nationalistes est vivement critiqué, ce sont avant tout les violences commises par des militants d'extrême droite à l'encontre de militants de SOS Racisme qui créent la polémique. Début 2022, début d'année mouvementé, marqué par la position ambiguë de Zemmour vis-à-vis de la guerre en Ukraine. D'autant que le mouvement Reconquête peine à rassembler des figures d'envergure autour du candidat. Mis à part Christine Boutin, Jean-Frédéric Poisson et quelques anciens candidats du RN à faible notoriété, les ralliements se font attendre. En décembre, Zemmour candidat obtient enfin le soutien officiel de son ami de longue date, Philippe Devilliers, à l'occasion d'un voyage en Arménie. Après des mois de tergiversation, le Vendéen consent à le soutenir publiquement. Et ce n'est pas tout. Patrick Stefanini, le directeur de campagne préféré des Républicains, celui de François Fillon en 2017, puis de Valérie Pécresse en 2022, deux échecs retentissants, a refusé d'être son directeur de campagne quelques semaines plus tôt, et son amie Isabelle Balkany ne daigne toujours pas soutenir le polémiste. Alors, en coulisses, les négociations vont bon train. C'est finalement au début de l'année 2022 que de premiers ralliements significatifs interviennent. En janvier, l'ancien vice-président des Républicains, Guillaume Pelletier, rejoint l'équipe des Zemmour. En février, c'est Nicolas Bay, le porte-parole de Marine Le Pen, puis Stéphane Ravier, le seul sénateur RN qui change de camp. Début mars, et alors que les sondages continuent de baisser, Zemmour obtient enfin le soutien d'une personnalité dont il est proche depuis longtemps et qui, il l'espère, pourra faire pencher la balance en sa faveur, Marion Maréchal Le Pen.
En un temps record, vous avez déjà commencé à réaliser beaucoup de pourquoi je plaide depuis des années. Construire cette grande union à droite que Éric réussit à faire vivre chaque jour en attirant dans son sillage des personnalités issues de LR, du RN et d'ailleurs. J'en ai rêvé et vous l'avez fait. Mettre fin à 40 ans de division artificielle. Effacer la ligne rouge tracée par la gauche entre les fréquentables et les infréquentables. Et surtout, surtout, balayer le terrorisme intellectuel du politiquement correct. J'en ai rêvé et vous l'avez fait !
Un ralliement qui intervient peut-être trop tard. Car malgré l'obtention des 500 parrainages et l'intense battage médiatique autour du candidat, les sondages semblent indiquer que la dynamique est bel et bien passée. À un mois du premier tour, Marine Le Pen est désormais solidement installée en deuxième position, quand Éric Zemmour semble lui condamné à jouer les seconds rôles et à se battre pour une place d'honneur. Le candidat d'extrême droite ne relâche pourtant pas ses efforts et multiplie les meetings à travers la France, Toulon, Agen, Metz, Lille ou le grand rassemblement de la droite populiste sur la place du Trocadéro à Paris, mais rien n'y fait.
Mes chers compatriotes, mes chers amis,
Vous êtes plus de 2 millions à m'avoir apporté vos suffrages aujourd'hui. Merci. Merci infiniment de votre confiance, de l'espoir et de la force que vous me donnez ce soir. Je veux dire pour finir que je ne me tromperai pas d'adversaire. C'est la raison pour laquelle j'appelle mes électeurs à voter pour Marine Le Pen. Vive la République et surtout, oui, surtout, vive la France.
Un appel à voter pour Marine Le Pen après des mois de critiques acerbes et puis s'en va. Malgré ces 7% que son camp qualifie d'encourageant, Éric Zemmour et son parti Reconquête ne parviennent pas à envoyer de députés à l'Assemblée nationale aux législatives du mois de juin. Si 5 de ses candidats sont élus lors des élections européennes de 2024, le départ retentissant de Marion Maréchal lors de la campagne pour les législatives suivant la dissolution de l'Assemblée nationale illustre l'échec du projet Zemmour. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter aujourd'hui. Éric Zemmour dans la campagne présidentielle de 2022, dont nous parlons avec notre invité Étienne Girard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef à L'Express et surtout auteur de ce livre bio, la biographie de Zemmour, son parcours, et surtout le titre Le radicalisé. Ouais. C'est un titre quand même bien trouvé, provocateur, Le radicalisé.
Finalement, pas si provocateur, parce que ça correspond à son parcours. Il dit qu'il il a commencé par voter Mitterrand, jusqu'à appeler à voter Marine Le Pen entre les deux tours de la présidentielle de 2022. Donc son parcours, c'est vraiment une radicalisation.
Alors, concernant le score, Étienne Girard, pour quelqu'un qui ne vient pas du Sérail, 7% une présidentielle, c'est pas mal. D'autres s'y sont essayés et ont fait des scores plus bas. Mais finir quatrième avec 13 points de retard sur le troisième, c'est ce qu'on appelle un échec. C'est
oui, nul. Il a raté son pari quand même.
Alors c'est échec ou succès pour vous ?
Échec quand même, parce que c'était pas du tout l'objectif d'Éric Zemmour. Quand il se présente, il pense possible de se qualifier pour le second tour de la présidentielle et aussi, et surtout peut-être, finalement battre Marine Le Pen. C'était un de ses objectifs, c'était d'incarner, lui, l'extrême droite. Il a toujours trouvé que l'extrême droite du Rassemblement National de Marine Le Pen, ça n'allait pas, c'était des mous, que lui allait faire turbuler tout ça. Finalement, il n'a pas réussi. Il n'a jamais trouvé, au cours de cette campagne, depuis le moment où il est candidat, le bon ton, la bonne approche pour convaincre cette grande part d'électorat de la droite jusqu'à l'extrême droite qui l'ambitionnait de réunir sous son nom. Même si c'est un succès d'estime, il fait mieux par exemple que Philippe de Villiers lorsque celui-ci s'était présenté par exemple en 1995. Pour un candidat d'extrême droite, c'est finalement dans la fourchette haute, ça n'atteint pas les gros scores du Front National puis du Rassemblement National.
À votre avis, pourquoi trop de polémiques, trop d'outrances ?
Oui, trop d'outrance, évidemment. Ça a desservi sa cause, si je puis dire. Et puis, je pense qu'il n'a jamais trouvé la bonne approche, le bon ton dans une campagne présidentielle. Il voulait faire du Trump. Il pensait faire du Trump. Il arrive un an, même pas, après l'élection de Donald Trump à la présidentielle. Il pense que c'est ça qui va marcher, c'est ça qui va passer. Mmh. Et finalement, sa démarche, son style, ne rencontre jamais son public. À l'inverse de quelqu'un comme Marine Le Pen, dont le style a immédiatement rencontré son public et sa sociologie populaire de cette France de la désindustrialisation. Lui, Éric Zemmour, il n'a jamais vraiment trouvé sa sociologie. Il prétendait, vous rappelez, c'était l'union des droites. Il prétendait réconcilier donc les classes populaires qui votent Rassemblement National et les classes plus bourgeoises qui votent traditionnellement pour les Républicains. Il n'a jamais réussi.
Au final, il n'y a pas la fibre populaire, mais auprès des électeurs populaires, c'est là que ça pêchait surtout.
Complètement.
C'est là. Complètement. Devant une certaine élite, ça passait.
Tout à fait. On voit bien d'ailleurs dans les sondages qu'il y a un moment où il y a une hésitation dans l'électorat populaire tenté par l'extrême droite, ce moment vers octobre, où les courbes sont en train de se croiser entre Zemmour et Marine Le Pen. C'est inouï ce qui est en train de se passer. C'est quand même quelqu'un qui ne s'est jamais présenté à une élection, qui est en train de tenter un électorat qui votait Rassemblement National et Front National avant, depuis 20 ans.
Il tentait le hold-up, là.
Mais il était presque en passe de le réussir. Et finalement, il y a quand même quelque chose dans la politique, c'est le professionnalisme. C'est la façon de faire, la maîtrise. Marine Le Pen a cette maîtrise, elle a ce sens politique, cette intuition. Elle sait utiliser les mots qui vont parler à un moment précis à un électorat, ce que c'est finalement beaucoup moins faire Éric Zemmour, même si durant toute sa carrière il a donné des leçons aux politiques en prétendant mieux savoir qu'eux. Eh bien finalement non. Et puis en février, ce qui se passe, c'est quand même l'invasion de la Russie en Ukraine.
Ça change beaucoup la campagne présidentielle, pour tous les candidats d'ailleurs.
Oui, ça change l'ambiance, ça change les thèmes.
Et le fond, oui, bien sûr.
Et ça change les ordres d'importance. Ouais. L'international redevient un thème majeur. Alors, c'est pas que le Rassemblement National soit extrêmement à l'aise sur l'international, mais Marine Le Pen s'adapte beaucoup mieux à la nouvelle donne, ce que ne fait pas Éric Zemmour.
Oui. Et sur le fond, puisqu'on est sur le fond, oui. Marine Le Pen sait parler aux classes populaires, oui. On y revient. Pas Zemmour, parce que la campagne de Zemmour, elle est sur le sociétal, avec des obsessions, le grand remplacement, l'anti-wokisme.
Absolument.
Si mes souvenirs sont bons, ne parle pas social,
non,
emploi.
D'ailleurs, c'est très intéressant. Il y a un débat au sein de son équipe de campagne, dans la pré-candidature, c'est quelle ligne économique ? Est-ce qu'on choisit une ligne économique un peu comme le Rassemblement National, souverainiste, mais dirigée vers les classes populaires, la retraite à 62 ans, par exemple ? Ou alors, est-ce qu'on va tenter d'aller séduire un électorat plus bourgeois, plus classe dirigeante, plus chef d'entreprise, avec un programme plus libéral ? Et c'est ce que va choisir Éric Zemmour, qui va prôner les valeurs travail, moins de charges. Il y a tout un axe de sa campagne qui se fixe sur la bureaucratie française. Alors évidemment, ce n'est pas ses premiers thèmes. Il fait une campagne anti-musulman, faut être très clair. Oui. Mais ses accents libéraux, eh bien, même si ce n'est pas son premier thème, l'électorat de Marine Le Pen, ça ne lui plaît pas. L'électorat de Marine préfère entendre Marine Le Pen défendre le pouvoir d'achat. Et donc, c'est aussi sur ça que ça va se décider.
France Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Étienne Gérard, il est écrit en quatrième de couverture sur votre livre « Enquête sur Éric Zemmour » paru au Seuil, la phrase suivante, qui m'a interpellé, parce qu'elle est forte. Hein. « Enquête sur un homme en guerre contre l'état de droit ».
Oui.
Ça va loin, ça, dit donc.
C'est absolument son projet politique qui date de ses débuts dans le journalisme. Il a toujours dit ça. Il considère que l'état de droit, c'est quelque chose qui paralyse toute initiative politique, et en particulier les initiatives politiques que lui appelle de ses voeux, c'est-à-dire le retour du travail, de la famille, de la patrie. Il l'a écrit comme tel, hein, dans un édito d'il y a très longtemps, dans un édito de 1995. C'était à l'époque pour le quotidien Info Matin, qui s'est jamais caché d'être de droite et d'une certaine droite qui considère que tout est allé mal en France une fois qu'il y a eu un bloc de constitutionnalité qui a protégé les citoyens devant les juges des décisions que peuvent prendre les gouvernants. Lui considère que la politique doit reprendre ses droits et que c'est au gouvernement élu de décider ce qu'il faut faire et que les juges ne doivent décider finalement de rien entre les politiques et les citoyens.
Mais la confusion des pouvoirs, ça s'appelle la dictature.
Oui, d'ailleurs, dans un de ses ouvrages, Éric Zemmour, il postule l'hypothèse, on le sait, il est obsédé par l'immigration musulmane, il dit un jour, s'il y a plus de 50% de musulmans en France, alors il faudra envisager la dictature. Ça paraît inouï, ça paraît insensé, ça l'est, mais ça, c'est pas quelque chose de complètement tabou chez lui. Il a assez profondément ancré une détestation pour, l'état de droit et notre fonctionnement républicain tel qu'on le connaît depuis une quarantaine d'années.
Eh bien, alors on a présenté rapidement Sarah Knafo. Alors je sais pas si Zemmour est un homme sous influence, mais qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette proche d'Éric Zemmour ?
Elle a toujours voulu faire de la politique. Vous l'avez rappelé, avant de devenir réellement l'assistante, la première collaboratrice d'Éric Zemmour, elle cherche des signatures pour une candidature d'Henri Guénaud à l'élection présidentielle, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, souverainiste. Ça ne marche pas. Et cette rencontre, ils se connaissent depuis longtemps, vous l'avez rappelé aussi, mais cette rencontre professionnelle entre les deux, Sarah Knafo et Éric Zemmour, elle est clé parce que je suis convaincu, et ceux qui le connaissent en sont aussi convaincus, sans Sarah Knafo, il n'y aurait jamais eu de candidature d'Éric Zemmour à la présidentielle, parce que Éric Zemmour a ce côté idéologue, ça ne vous surprend pas que je dise ça, il n'a pas le côté organisateur. Le côté organisateur, le côté chasseur de tête, de talent à l'extrême droite, dans la jeunesse d'extrême droite, il ne l'a pas du tout. Lui, il veut juste dire ce qu'il pense. Et en revanche, Sarah Knafo, elle fait ce travail de l'ombre. Elle va approcher tout le monde, elle va tout construire. Et c'est elle qui va être la cheville ouvrière, vraiment, de cette candidature Zemmour. Et elle l'influence également. S'il n'y avait pas eu son énergie à côté, il y a vraiment fort à parier pour qu'Éric Zemmour soit resté à la
journaliste.
Fois... voilà, éditorialiste au Figaro et à CNews.
Quelle est la nature des rapports personnels entre Marine Le Pen et Éric Zemmour? Il entretenait des bonnes relations avec le père. Jean-Marie, là, avec Marine Le Pen, ça a été jeté moins non plus.
Leurs rapports sont quand même globalement très mauvais. Ouais. Il en pense le plus grand mal sur deux thèmes. Ce qu'il dit avec ses amis, c'est Marine Le Pen n'a jamais ouvert un livre de sa vie. Il aime bien, dans ses déjeuners avec Patrick Buisson à l'époque, Philippe Devilliers, Paul-Marie Couteau, se moquer de l'ignorance, du manque de culture supposée de Marine Le Pen. Il y a un grand mépris, faut le dire, pour Marine Le Pen. Et son autre thème sur Marine Le Pen, c'est quand même intéressant. Je l'ai entendu dire, Marine Le Pen est de gauche. Il considère que c'est la fausse extrême droite, c'est une fausse radicale, qu'en réalité, c'est une molle, en particulier sur les questions économiques. Elle pense tout comme la gauche. Bref, elle au pouvoir, finalement, ce ne serait pas la solution, rien ne changerait. C'est aussi pour ça qu'il a souhaité, lui, s'engager. C'est qu'il n'a jamais cru, il n'a jamais apprécié Marine Le Pen.
Parlons un instant et enfin de la suite de la carrière politique d'Éric Zemmour, parce qu'après après la présidentielle, il a subi de vrais échecs aux législatives de 2022, aux européennes de 2024, et surtout aux législatives anticipées de l'été dernier avec le départ fracassant de Marion Maréchal de son parti. Quel est l'avenir politique d'Éric Zemmour, si tant est qu'il en est un ?
Il est au milieu du guet aujourd'hui. S'il a continuer à tenir la présidence de son parti, ça veut bien dire qu'il ne va pas s'arrêter maintenant. Il sera candidat à l'élection présidentielle de 2027. C'est absolument probable. Et là, ce sera la dernière fois. Et après un possible échec, il redeviendra ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire plutôt un imprécateur et plutôt un éditorialiste.
Merci infiniment, Étienne Girard.
Merci à vous.
Auteur du livre Enquête sur Éric Zemmour, publié au Seuil. Merci, au revoir.
Merci.
Et Affaires Sensibles, aujourd'hui la campagne présidentielle d'Éric Zemmour, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Guillaume Ficheux.